Bonjour Martine, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On a persévéré pour l'enregistrement, on a eu moult péripéties, mais on y est arrivé, c'est aujourd'hui. Donc je suis vraiment ravie de t'accueillir.
Bonjour Cécile, moi de même, ravie après justement ces péripéties
Ouais.
d'enregistrement. Mais bon, voilà, écoute, nous y sommes, donc c'est parfait, on va réussir cet enregistrement qui sera de haut vol.
Bah, complètement, c'est sûr. Là, j'ai envie de te dire, c'est la troisième reprise. On va y arriver, on est forte. Donc, on s'est connus juste avant l'été par l'intermédiaire de Yves, que j'ai eu le plaisir d'interviewer sur le podcast et qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres Martine et que tu échanges avec elle. Vous avez plein de choses à vous dire. Donc, du coup, on a commencé par des échanges de textos et puis on a pu échanger à la rentrée. Et du coup, bah, on a échangé aussi pour pouvoir préparer le sujet d'aujourd'hui. Alors, par rapport à ton parcours, je te laisserai aussi te présenter. Moi, j'ai retenu que tu avais plusieurs casquettes, multifacettes, que tu étais amenée à être aussi bien consultante que conseillère, que formatrice, que tu as fait plein de choses dans ta vie, avec plein, plein, plein de rencontres, de belles rencontres, que c'est surtout tourné sur l'humain, que tu es vraiment quelqu'un qui est là pour accompagner et prendre soin des autres. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de nos différents échanges. Et puis, bah, peut-être te laisser la parole pour que tu puisses nous dire un petit peu ce que tu as envie de partager sur toi, ton parcours et qui tu es.
Je te remercie, Cécile. Alors, qui je suis? Eh bien, je suis déjà moi-même, hein, Martine Gauthier-Touzeau. J'ai 60 ans, 60 ans passés. J'étais ce qu'on appelait, enfin, je pense que je suis encore ce qu'on appelait un profil atypique, d'où les multiples casquettes, dit certainement aujourd'hui les profils HPI, HPE.
Oui, tel que
Voilà.
les.
Donc c'est vrai que quand on commence son parcours, eh bien, on a toujours un peu cette difficulté à déterminer exactement ce qu'on peut faire, parce qu'on a envie de faire plein de choses. Donc j'ai fait plein de choses, effectivement, sur l'humain et aussi en entreprise. Entreprise, j'ai souvent géré des métiers et des environnements conflictuels. C'est comme ça, c'est certainement dû aussi à ma personnalité. Et aujourd'hui, et depuis 2004, j'ai une boîte de conseil, donc conseil entreprise, plutôt de la stratégie, mais dans la stratégie, je fais rentrer aussi beaucoup de connaissances humaines parce que effectivement, c'est collé au plus près de la personnalité du chef d'entreprise et de sa vision. Donc effectivement, dans la vision globale, je mets cette vision d'entreprise qui, je trouve, est en perdition aujourd'hui. Donc bon, il y a le Covid aussi, hein, c'est pas si facile que ça de pouvoir se projeter, mais c'est pas facile et en même temps c'est nécessaire. Donc voilà, c'est un peu tout ça pour l'entreprise et puis sur l'humain. Alors comme on échangeait sur le développement personnel, voilà, le développement personnel pour moi c'est de l'introspection. Donc moi j'ai passé 61 ans, effectivement, j'ai passé quelques années à forer, comme dirait un environnement proche. Donc, je suis remontée avec beaucoup d'informations. Donc, ce sont des informations. L'expérience permet aussi de justement de partager. Moi, je suis beaucoup dans le partage, je suis beaucoup dans la transmission. Donc, effectivement, cette connaissance de soi permet d'être complètement tournée vers l'autre parce qu'on n'a plus
C'était ce
rien
que
à attendre.
tu m'avais effectivement dit quand on avait eu notre premier échange, je crois, hein, que tout ce travail que tu avais fait sur toi, justement, il te permettait d'être bien. Alors, on a parlé d'alignement juste avant de commencer l'enregistrement, mais du coup, d'être bien aligné pour pouvoir justement proposer cet accompagnement-là aux autres aussi. Et ça fait partie des questions de tout à l'heure. Mais du coup, je te propose qu'on enregistre, enfin, oui, on est en train d'enregistrer, donc forcément, on enregistre, mais du coup, qu'on aborde le sujet qui, du coup, t'anime et en tout cas, qu'on a choisi et que tu as choisi avec moi quand on a préparé le podcast. On s'est posé la question de comment remettre du mouvement et fédérer en entreprise. Donc c'est une grande question, large et vaste question qu'on a aussi abordée. Donc tu l'as dit, hein, toi, tu as ta casquette depuis plusieurs années en entreprise, le côté stratégie en entreprise, et c'est cette notion de mouvement, le fait de bouger, de se mettre en mouvement pour pouvoir fédérer en entreprise qui nous a parlé toutes les deux. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce sujet? Qu'est-ce qui fait que ça t'a parlé et que tu l'as choisi pour aujourd'hui?
Eh bien, le mouvement d'entreprise, déjà, c'est quelque chose d'essentiel. L'entreprise, elle vit, hein, c'est une entité qui vit, elle vit de ses clients, de ses projets, du capital, de tout un environnement qui est essentiel à sa vie. Donc, comment remettre quand il n'y a plus de mouvement? Déjà, quand il n'y a plus de mouvement, c'est déjà déterminé en un, c'est quoi le mouvement?
Voilà. Premier
Le
point.
mouvement en un, c'est changer de place, changer de vision, changer d'environnement, voilà, c'est cette adaptation en fin de compte. Être capable de s'adapter à son environnement, c'est effectivement aussi trouver des solutions, déterminer où sont les problématiques et trouver des solutions, savoir si on peut en trouver, si on peut ne pas en trouver. Donc, comment fait-on? Pour moi, tout part de ce que je disais tout à l'heure, tout part de cette vision d'entreprise. Quand je suis chef d'entreprise, quelle est ma vision? Alors, au tout début de mon activité, quand j'ai commencé à me lancer, j'avais créé un courriel qui disait « Vous avez été entreprenant, sachez être entrepreneur. »
Ah, ok.
Voilà. Je suis entrepreneur, je prends des risques. J'ai une vision d'entreprise. Je suis entrepreneur, j'organise, je planifie.
Ok.
Je finance, je compte. On n'a pas du tout, on n'est pas dans les mêmes fonctions, dans les mêmes qualités. Donc, quand on a su être entreprenant, oui, on devient entrepreneur. Alors, où on sait se faire aider, hein, on crée son environnement pour ça. Mais il faut toujours garder ce côté entreprenant. Donc, quand je parle de vision, c'est être entreprenant, avoir de la vision. Parce qu'aujourd'hui, avec cet environnement qui est un peu freiné, bien évidemment, parler de vision, c'est prendre des risques. Mais c'est justement ce dont on a besoin. Et le risque, c'est chacun son niveau, chacun sa version, sa vision du risque. Donc, dans mon travail, c'est d'amener, en fin de compte, les décideurs à prendre conscience que la vision, c'est quelque chose d'important et qu'il faut toujours en avoir. Et si on veut justement remettre du mouvement dans l'entreprise, remettre du mouvement dans son salarial, c'est important d'amener les gens à partager une vision. Et partager une vision, ce n'est pas tout donner sans explication. C'est tout le management, en fin de compte. C'est tout le capital humain.
Le capital humain de l'entreprise, du coup, que tu englobes dans cette vision.
Oui, le capital humain qui était une grande part, enfin, qui faisait partie de la première vision du développement durable, hein, dans les agendas 21, les premiers agendas 21. On avait cette part importante du capital humain et qui reste essentielle parce que l'entreprise n'est pas qu'un décideur. Donc, pour remettre du mouvement d'entreprise, il y a cette vision et il y a amené, à travers le management, il y a amené ses salariés à partager cette vision et à enrichir la vision.
Quand tu parles de vision, par rapport à stratégie, est-ce que tu fais un distinguo, comme du coup tu fais entrepreneur, est-ce que dans vision stratégie il y a aussi un distinguo que tu fais? Et si oui, je serais très curieuse de connaître le distinguo entre les deux.
Et c'est-à-dire le distinguo entre stratégie et vision. On peut poser une vision et on applique une stratégie.
Okay.
Dans la métaphore, puisque tout à l'heure, on a parlé.
Ah, bah oui, tout à fait. Oui, c'est un des autres thèmes qui tient à cœur.
Dans la métaphore, par rapport à ça, je veux aller sur la Lune, vision.
Oui.
Je veux aller sur la Lune, vision. Stratégie sera quoi? Comment je vais faire? De quoi j'ai besoin pour arriver à cette vision? Donc, c'est tout ce que je vais mettre en place pour arriver à cette vision. On est aussi sur des images au niveau de la parole. Moi, je dis souvent, il faut mieux viser le soleil et arriver sur la lune que viser la lune et faire un petit saut sur la terre. Parce que tout ce que l'on va mettre en place quand on a une vision sera forcément pas surdimensionné, mais sera certainement en vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale que si on est là juste derrière la porte. C'est pour ne pas utiliser une expression qui ne passe pas au niveau du podcast.
Merci Martine de préserver les chastes oreilles de nos auditeurs et auditrices. Et du coup, c'est vrai que les métaphores, c'est quelque chose que tu utilises tout le temps. À chaque fois qu'on a été amené à échanger, de toute façon, c'est très imagé les exemples que tu donnes. Et justement, en quoi, selon toi, les métaphores te sont utiles dans ta pratique de conseillère, formatrice, accompagnatrice?
Alors la métaphore, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que bon, je possède de manière innée. Pourquoi? Je sais pas, j'avais d'avoir un esprit créatif très puissant. La métaphore pour moi permet de poser une image sur quelque chose, sur un travail, sur une expression, sur éventuellement même des contraintes. Plus il y a contraintes, plus la métaphore est efficace parce qu'elle t'allège. J'ai utilisé pour certaines entreprises, dans la vision globale, quand le chef d'entreprise n'a plus de vision et que tu as l'impression que toi, il est vraiment le nez contre le mur, bien, nous, on est sur le bassin d'Arcachon, hein, Bordeaux, bassin d'Arcachon, donc je leur disais, ben voilà, de votre bureau, vous connaissez le bassin d'Arcachon. Oui, je dis, je vois Arcachon, je vois bien comment où sait, Cap Ferré, Andernos, tout ça. Mais si tu prends l'avion, tu vas pouvoir te positionner au-dessus et voir tout dans cette vision globale. Tu n'as plus besoin de t'imaginer, tu vois. Donc, de prendre de la hauteur, ça permet ça. Et quand je te donne cet exemple, je suis sur la vision globale et je suis sur la métaphore, le visuel qui va rester en tête.
Ah bon, puis en plus, tu fais le mouvement. Alors là, les auditeurs ne te voient pas, mais du coup, tu fais le mouvement d'élévation en même temps. Donc, ça aide à la mise en mouvement, du coup.
Bien sûr. C'est vraiment apprendre à se positionner de manière différente pour que la pensée de base, pensée stratégique, soit nourrie de quelque chose de différent. Donc, c'est un peu ça. Moi, mon travail, c'est d'accompagner, mais c'est surtout dans la transmission, c'est de laisser une boîte à outils. Moi, je trouve que quand mes clients décident tout seuls, c'est parfait, j'ai réussi ma mission.
Ok. Donc, tu construis la boîte à outils, qu'est-ce que tu mets dedans, qu'est-ce que tu leur proposes? Parce que moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup, la boîte à outils.
C'est du sur-mesure.
Ouais.
Tu n'as pas besoin de la même chose que la plupart de mes clients, certainement, parce que tu es unique. Tu es unique dans ta vision d'entreprise, tu es unique dans ce que tu fais. Voilà, donc chaque entreprise a besoin de sa boîte à outils. Et quand tu mets en place une boîte à outils, parce que tu vas leur faire leurs propres outils, au départ, c'est toi qui fais, après, ils apprennent à faire et ils enrichissent leur boîte à outils au fur et à mesure. Je pense que c'est ça, c'est pouvoir se coller et se caler aux besoins de chacun.
Ta notion d'accompagnement, de faire du sur-mesure avec
la notion d'accompagnement.
Un dosage.
Aujourd'hui, on est quand même sur... Il y a eu des périodes où on a eu des chefs d'entreprise qui n'avaient pas trop besoin, qui n'avaient plus trop besoin de ça. Et on est de nouveau dans une période où le chef d'entreprise a besoin de trouver cette vision, cette élévation en vision.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça a évolué et que c'est revenu sur cette notion de besoin, justement, de vision et d'élévation?
Je vais te dire... Vous pouvez répéter la question? Alors, je vais être très critique sur plein de choses.
Oui, bah, t'as le droit, autorise-toi.
Parce que je pense que justement, les fonctions même de vision, d'anticipation, de prise de risque, de leader, hein, le côté leader, le leadership, et ça s'est un peu perdu. Un leader, alors c'est pareil, hein, dans le leader, c'est pas celui forcément ou celle que l'on entend constamment et qui est plus fort que les autres et qui a beaucoup plus de choses à dire. C'est celui qui peut justement fédérer celui ou celle, attention, parce que voilà, qui peut fédérer en période de crise et qui peut emmener. Tout le monde ne va pas aimer le leader, mais tout le monde va lui faire confiance.
Ouais.
Donc, c'est fédérer une équipe, c'est vraiment justement servir de ciment autour de l'équipe, enfin, dans l'équipe. Dire voilà, on va vous emmener là et on partage une vision et c'est cette vision partagée qui fait que l'équipe va se fédérer. Donc, moi, je trouve qu'on a été on est en perdition de leadership, oui.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est dû aux grandes sociétés américaines qui ont vraiment un management très vertical? Et on est en perte de sens, certainement, hein. Mais même dans les jeunes cadres, je trouve que ça se perd. Ils sont rentrés dans le moule, ah, ça oui, ça ils sont rentrés dans le moule, mais ils en ont peut-être perdu une partie de leur personnalité.
Oui, du coup, ça questionne.
Oui, on voit, tu vois, je te disais, moi je l'utilise depuis très longtemps, l'outil des préférences cérébrales là, d'Hermann, et on le voit bien que depuis des années, depuis une vingtaine d'années, on a privilégié les écoles, les études scientifiques, le bac AS plutôt. Donc, on a fait des hémisphères gauche. On a privilégié les hémisphères gauche au détriment des hémisphères droits, qui sont plutôt des hémisphères de créativité, d'intuition, de partage. Donc, on se retrouve avec effectivement des tas d'individus qui sont capables de mettre en place, donnent un ordre, les appliquent, sont très respectueux de ce qu'on leur dit. Et en même temps, dans une période comme ça où tu vas chercher des solutions, ben oui, mais trouver des solutions, mais comment? Puisque d'un coup, on me demanderait d'utiliser les fonctions, les capacités d'un hémisphère droit que je n'utilise plus. Je l'utilise, mais peut-être dans ma vie privée. Mais
oui, pas forcément en milieu pro.
Voilà, en entreprise, on ne me demande pas d'avoir des idées, surtout pas.
Ce test que tu utilises, du coup, à quel moment tu le proposes? Quand est-ce que tu es amené à...
Alors déjà, Hermann, méthode Hermann, ce n'est pas un test, c'est un profil.
Ah, un profil, pardon, mille excuses. Un profil, donc le profil Hermann.
Ça fait très longtemps que je peux utiliser, j'utilise ça en profil d'équipe.
Okay.
Voilà, quand on repositionne, c'est-à-dire qu'on va étudier le chemin de la pensée de l'équipe. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des moments où c'est normal que ça fasse des nœuds, hein, parce que c'est pas simple la réflexion. On le fait aussi en profil individuel, bien sûr, et puis en coaching. Hein, mais Hermann, j'ai longtemps utilisé d'autres outils. Hermann, ça doit faire presque 20 ans que j'utilise que celui-ci parce que je fais tout avec. Et Hermann, alors ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, très visuel, très ludique, les couleurs. Et ça, je trouve ça génial. Dans la boîte à outils, quand tu as assimilé l'outil en main, tu peux faire plein de choses avec.
Okay, super.
Moi, ouais, sinon, c'est quelque chose qui m'a... Quand je me suis formée, j'ai été épatée.
Okay.
Donc, c'est super. Vrai qu'en profil d'équipe, pour fédérer des équipes, ça, c'est très intéressant parce qu'on est justement, pas cette confrontation, mais cette différence de vision entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Alors, c'est schématique parce qu'effectivement, les études que Ned Herrmann avait appliquées à son époque, elles ont évolué. Mais schématiquement, on est quand même dans ces différences de style de pensée. Un style de pensée très pragmatique, très voilà, je suis la loi et autres, et un autre style de pensée qui est beaucoup plus dans l'intuition, dans celui qui crée, quoi. Donc, c'est vrai que quand tu fais ça en entreprise, tu vas mettre en jeu tous ceux qui prennent des risques, donc plutôt les équipes commerciales, et tous ceux qui planifient, plutôt les équipes comptables, ingénieurs comptables. Et là, il y a tout le mouvement qui se crée.
Okay, super, merci pour ce focus sur cet outil-là. Du coup, on en avait parlé très rapidement la dernière fois. Du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des outils complémentaires aussi d'autres profils ou tests qui peuvent exister. Est-ce qu'il y a un exemple que tu souhaites nous partager d'un de tes clients ou de plusieurs clients d'ailleurs, hein, par rapport à cette notion de mise en mouvement avec la vision, avec la stratégie, vision, stratégie, emmener les équipes, le leader, que tu souhaiterais nous partager aujourd'hui?
Et de toute façon, moi, je travaille toujours comme ça. Donc, quand je travaille sur de la stratégie pure, comme j'ai pu le faire là ces dernières années. Alors, c'est difficile parce qu'il peut y avoir des freins culturels et c'est difficile de faire bouger les lignes quand elles viennent de pratiques et d'habitudes. Mais bon, voilà, après, il faut aussi que le chef d'entreprise il soit lui-même investi hein, de cette envie et pas forcément dans la crainte et appréhender le pire. Parce que quand on est en mission, on est censé appréhender, nous, le pire pour éviter qu'il se produise. Donc, voilà. Après, ici, j'ai souvenir d'une entreprise avec laquelle j'ai travaillé et on a travaillé sur justement un profil d'équipe et on, alors pour un peu lier le tout en métaphore, je disais au directeur général que pour moi son équipe de responsables commerciaux c'était l'image de la meute de chiens qu'on lance à la chasse aux clients hein. Et donc voilà, je lui avais fait toute une petite histoire là-dessus en disant voilà, vous êtes le chasseur, vous arrivez au chenil, vos chiens sont tellement contents de partir à la chasse parce qu'ils savent qu'ils vont partir, donc bon voilà, vous n'avez pas briefé sur rien du tout, vous ouvrez le chenil, vous en avez déjà perdu la moitié. Très bien. Et je lui raconte cette petite histoire qui est une histoire que j'invente au fur et à mesure, bien sûr. Et à la fin, il me regarde, il me dit, mais c'est tout à fait ça. La dernière réunion, il leur avait dit, bah, voilà, on va développer l'Aquitaine. Et il dit, dans le lot, il y en a un qui est revenu un mois après en disant, je suis allé en Alsace. Oui, mais on avait dit l'Aquitaine. Et oui, il me dit, mais en Alsace, j'avais un bon plan qui n'a pas marché, mais j'avais un bon plan. Et c'est apprendre ça, justement, apprendre à voir dans ses équipes les besoins de structure que l'on doit mettre en place pour les aider à mieux travailler. La connaissance de l'autre, c'est-à-dire écouter, regarder, important, très important, vital. On est au-delà de la bataille des égos et malheureusement, on se plie, on est souvent sur...
D'où la bataille des égos
personnel, mademoiselle Cécile, d'où le développement personnel qui doit se faire à l'extérieur de l'entreprise.
Oui. C'est effectivement un sujet aussi qu'on avait abordé dès notre premier échange sur ce côté effectivement un travail personnel en fait à mener selon toi effectivement en dehors des murs de l'entreprise pour ne conserver que, alors je me fais la traductrice de ce que j'ai retenu de notre échange de ton point de vue, mais du coup effectivement que chacun a travaillé à titre personnel et individuel en dehors des murs de l'entreprise sur qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il fait pour pouvoir justement selon toi être optimum en entreprise, mais que l'entreprise n'a pas apporté le poids du développement personnel des individus qui la composent. Est-ce que j'ai bien retenu l'essence de notre
échange ? C'est un avis personnel que j'assume complètement. Développement personnel, on entend développement personnel. Tu dis développement entreprise, on entend développement entreprise. Développement personnel en entreprise, pour moi, c'est antinomique.
Est-ce que tu conseilles justement à des clients, parce que ton point de vue est clair, hein, on en avait bien parlé toutes les deux, justement pour parce que à la fois tu es fervent défenseur de justement du développement personnel, mais en dehors de l'entreprise. Qu'est-ce que tu conseilles à des dirigeants, des dirigeantes pour inciter leurs salariés à faire du développement personnel, mais en dehors de l'entreprise ?
Mais l'entreprise, elle peut faire, entre guillemets, du développement personnel à travers de la formation, mais de la formation, parce qu'en fin de compte, le développement personnel, ça dit bien ce que ça veut dire. J'essaie de développer ce que je suis en, t- tant qu'humain. Donc, c'est très large, en fin de compte. Et bien sûr, je vais aller travailler sur quoi ? Sur les freins que je peux avoir. Alors, de par le moule éducatif, de par ce que j'ai réussi ou pas au niveau études, et je me retrouve en entreprise. L'entreprise, elle n'a pas à se pencher sur cette histoire-là, parce que l'entreprise est une entité qui achète les compétences et l'expérience de la personne qui est venue répondre à une offre. Par contre, elle peut... Moi, j'ai souvent travaillé sur justement le, ce qu'il y a dans le CV et puis les besoins d'entreprise. Je les appelle non et voilà, c'est pas grave. Et je trouve que ça, c'est intéressant de pouvoir faire ce lien, toujours avec l'humain au centre, entre ce dont vous êtes porteur, ce que l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de travailler a besoin, et éventuellement de justement faire des réajustements à travers les formations. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a... Alors oui, nous, en métropole, on bénéficie d'un tas de supports de formation, mais dans d'autres départements outre-mer, on n'a pas ces formations-là. Donc, il faut, si on n'a pas les budgets, il faut justement transférer les savoirs. Alors, ça peut être sous un schéma mentoring, hein, puisque c'est très à la mode, mais je te vois sourire, je me dis, c'est très à la mode. Oui, mais je suis toujours très critique, moi. C'est à la mode, alors voilà. Puis alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ben, oh, il n'y a rien, dis donc, c'est fou. On a mis un très beau mot, mais des fois, oh, mais comment se fait-il qu'il n'y ait rien ? Non, mais voilà, c'est le transfert des savoirs, c'est important. Mais le transfert des savoirs ne peut se faire que lorsqu'on a soigné l'ego. Ouais. Oui, donc voilà, il faut forcément des personnes qui aient cette sensibilité-là et qui soient en phase de pouvoir accompagner. Tu vois bien, la formation, on est capable d'en faire, on en fait. Enfin, facile d'en faire, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais. Ça nourrit qui ? Ça nourrit et la personne et l'entreprise, ça nourrit les deux, ça nourrit que l'un. Enfin, je pense que le fond est important. Ouais.
Du coup, on parle entreprise, on parle alignement, développement personnel. Il y a une question que j'aime bien poser, moi, dans le podcast, qui est: qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi ? Qu'est-ce que tu mets derrière, du coup, cette notion d'alignement ?
Être aligné, pour moi, ça veut dire que je suis dans ma vérité. Mmh. Alors souvent, ça m'arrive de dire, moi, je sais que j'ai raison. J'ai raison que pour moi, hein.
Ouais, dans ma réalité.
C'est déjà énorme. Non, mais c'est au moins de se dire que dans cet alignement, je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire, ce que je peux faire. Je sais aussi ce que je ne peux pas faire et ce que je ne veux pas faire, parce que l'un n'oblige pas à l'autre. Hein. Et d'être dans cette justesse, c'est-à-dire quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vais pas me cacher. Être aligné, c'est être en capacité de tout entendre, de tout voir, de tout ressentir, pour moi.
Ok, super. Ouais. Pour toi, mais c'est pour toi.
Non, mais parce que bien sûr, on a tous une définition différente. Mais pour moi, c'est vraiment parce qu'on a travaillé, je suis persuadée que parce que j'ai fait ce travail sur moi depuis des années, que j'ai peut-être soigné des tas de trucs et qu'aujourd'hui, je suis dans cette justesse de pouvoir entendre, regarder, ressentir tout ce qui se fait en face de moi. Et qu'il n'y a plus de jeu de miroir. Voilà, on a capacité à aller à l'essentiel. Déjà, c'est énorme parce que on n'a plus que les problématiques de l'autre.
Oui.
Et on n'a plus les siennes. On peut se concentrer sur justement.
Juste l'autre. Sur l'autre après, une fois que ça s'est fait.
Oui. Okay. Oui.
Et quel conseil tu donnerais pour être soi-même, justement, ce que tu dis, être du coup ton alignement, c'est être moi-même. Déjà, c'est déjà bien si moi je suis moi et je suis dans ma vérité. Quel conseil tu donnerais à des personnes justement qui te questionneraient sur comment tu fais pour être toi-même, Martine ?
Comment j'ai fait ? Parce que maintenant, je fais plus
d'efforts. Comment t'as fait,
Je me réveille tous les matins, je suis moi-même, incroyable. Oh, je suis épatée tous les matins de me reconnaître. Je pense que quand on veut vraiment travailler là-dessus, alors c'est un travail et en même temps, c'est pas forcément un travail, je pense que c'est une vibration. Hein, et moi, je dis souvent, les gens, ça a été très marketing, développement personnel. Hein, on a fait beaucoup de développement personnel. Pour moi, le développement personnel, je le dis et je le redis, c'est de l'introspection. C'est-à-dire, je vais descendre à l'intérieur de moi-même, je vais aller moi-même sortir les poubelles que j'ai à sortir si j'en ai, et je vais décider de garder ce que j'ai envie de garder. Si je sors des poubelles, je peux m'autoriser à aller regarder dans ces poubelles ce qu'il y a. Voilà. Des fois, il y a des vieilles poubelles. C'est même pas la peine d'aller regarder. Il suffit de les prendre et de les jeter. Quand je suis en thérapeutique, je dis souvent aux gens, voilà, vous regardez dans votre jardin, il y a des poubelles à nœuds roses et des poubelles à nœuds bleus. Bon, bah, déjà, gardez les roses. Quand vous êtes une fille, c'est pour vous. Vous pouvez avoir des bleus si vous voulez, des vertes. Et puis, celles qui ne vous appartiennent pas, vous les balancez par-dessus le mur. Pas besoin de vous en occuper. Déjà, vous avez la moitié des poubelles qui sont pas dans votre jardin. Puis après, ben, vous allez regarder. On trouve rarement des monstres, hein, dans les poubelles. On en trouve, mais on en trouve. Des fois, on pense que c'est un monstre. Mais parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été regardé dans la poubelle. Donc, c'est un peu ça. Dans ces années, ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur le développement personnel. Pour moi, dans la métaphore, voilà, on a appris aux gens à courir sur la banquise, mais on ne leur a pas appris à descendre dans l'iceberg. Et vous savez bien que l'iceberg, il y a 10% du visible et 90% d'invisible. C'est descendre un peu dans ses profondeurs. Alors, moi, ce que j'ai compris, intégré, c'est que ne rien attendre pour tout avoir. Ne rien attendre de l'autre dans sa vie privée, ne rien attendre de ses enfants, ne rien attendre de ses clients, mais être dans cette disposition d'esprit qui fait qu'on voit tout, justement, on ressent tout. Dans sa vie privée, ne rien attendre, c'est laisser libre l'expression de l'autre dans sa propre vie, parce que même si on vit à deux, on n'est pas obligé de vivre la même vie, et c'est de l'enrichissement, en fin de compte. Avec ses enfants, c'est pareil, c'est laisser les enfants s'épanouir, s'éclore à ce qu'ils doivent être. Et dans sa clientèle, c'est être là posé et écouter les besoins et se dire, bon alors, est-ce que je suis apte à répondre à ces besoins? Comment je vais faire? Et s'il y a des points sur lesquels je ne peux pas répondre, c'est de prendre son téléphone, son réseau et de dire, voilà, je vais appeler un tel parce que lui va être en capacité de faire ce point-là tip-top. Et voilà. Et moi, j'aime bien travailler comme ça.
Ça tombe très bien parce que c'était la question d'après que j'allais te poser. Je me suis dit, comment je vais l'amener? Martine me l'a mis sur un plateau d'argent. Comment est-ce que tu entretiens ce fameux réseau qui te permet de prendre ton téléphone et d'appeler en fonction des besoins de la personne que tu as en face?
Un scoop, un truc incroyable. Hein. Ouais. J'entretiens pas.
Ok.
Alors écoute, j'ai pas l'impression d'entretenir un réseau. Je pense que dans les clients que j'ai eu, la façon que j'ai de travailler crée tellement de liens qu'en fin de compte, voilà, le réseau s'est fait. Et je pense que j'ai, alors peut-être je me trompe, hein, mais j'espère que je me trompe pas trop. La façon que j'ai de travailler crée des liens de confiance. Ça, cette confiance, c'est un socle. Quand j'appelle quelqu'un pour demander quelque chose, je lui dis, si tu as envie, tu réponds. Si tu n'as pas envie, ce n'est pas grave. Et je pense qu'on est dans cette liberté, dans ces groupes-là, de pouvoir justement faire ça. Tu fais parce que tu as envie, tu ne fais pas parce que tu me le dois.
Ouais. Tu rends à l'autre sa responsabilité, sa liberté de faire, de mettre...
Oui,
de
parce
faire,
que l'idée, c'est que si tu as envie, tu le fais bien.
Ouais.
Si tu le fais par devoir, tu ne le fais pas bien.
Ouais.
Tu le fais, mais tu le fais...
Oui, mais pas avec...
Donc, je n'ai pas l'impression de travailler mon réseau. Je dirais même que je n'ai pas forcément un gros réseau, hein, mais par contre, je sais qu'il y a des ramifications possibles. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui, pour une raison, pour quelque chose, je vais défoncer les portes. Même si on me dit non, je sais qu'on me dira non sur le fond du sujet, mais on pourra me dire, ah mais bon, écoute, puisque tu insistes, va voir un tel ou téléphone à un tel qui aura peut-être la solution pour toi. Et donc, la mise en mouvement, elle est là pour moi. La mise en mouvement, elle est très intellectuelle en fin de compte, très persuasive. J'ai besoin, il faut que je trouve. Donc, je vais trouver.
Ok. Ouais, donc, du coup, ces liens qui se font naturellement de confiance et tu vas réactiver quand c'est le moment.
Je ne peux pas dire que j'ai un réseau de gens que je... Voilà, quand je lis des bouquins, hein, de travailler son réseau. On met un petit mot de temps en temps, coucou, ça va, qu'est-ce que tu deviens? Mais si derrière, il n'y a pas de... Il n'y a pas de matière. C'est souvent un peu ce que je dis. Le vase peut être magnifique, hein, un magnifique vase en cristal de baccarat, et rien dedans. Hein. C'est tout l'écart entre le fond et la forme.
Ouais,
et on a besoin des deux pour être dans cette justesse, être aligné. Tous les mots qu'on a utilisés depuis l'entretien, c'est ça, être dans cette justesse, cet alignement, cette vérité. On a besoin des deux.
Tout à fait. Donc, des liens forts de qualité basés sur la confiance qu'on peut réactiver quand...
Oui, et puis j'ai peut-être une personnalité qui est un peu dérangeante donc par moment, puisqu'elle n'est pas très alignée à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est vrai que un peu, on me reproche mes qualités. Enfin, les qualités sont... L'expression, c'est... J'ai les qualités de mes défauts et les défauts de mes qualités. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai besoin de vivre ma vie privée, ma vie professionnelle à fond. Donc, j'ai pas de temps à perdre. Si tu viens pour travailler avec moi, tu vas travailler. Si tu viens juste pour faire un tour de rond-point, c'est pas la peine. Hein. On va te garer et on n'en reparlera plus. Parce que je trouve que la vie, c'est une étincelle. Hein, en développement personnel, notre vie à nous, c'est quoi? C'est une étincelle hein, sur le plan géologique. Rien. Donc, à force de se mettre des freins de partout, on finit effectivement par avoir besoin du développement personnel, puisque de toute façon, on ne sait plus où on est, comment on doit vivre, comment on doit penser. Donc, à un moment donné, il faut être dans l'action. Et l'action, ça ne veut pas dire je réussis à tous les coups, je veux juste être dans le mouvement.
Oui, on en revient à notre sujet de tout à l'heure sur la mise en mouvement.
C'est un cycle, hein, en fin de compte. Hein, tu te mets dans le mouvement, tu te trompes, tu rectifies, tu te remets dans le mouvement, tu peux te retromper, mais tu rectifies et au final, tu vas réussir quelque chose. Mais parce que ton cerveau va être nourri. Bon, ceci dit, alors, ça c'est pareil, j'ai besoin de nourrir mon cerveau.
Et oui. Comment tu fais pour nourrir ton cerveau? Est-ce que tu as des lectures en particulier d'ailleurs? Parce que ça, c'est une des questions. Je ne sais pas si tu es lectrice ou pas, en fait, c'est un sujet
alors,
dont on n'a pas parlé.
Je suis pas mal lectrice. Je lis de tout. Tu vois, là, j'ai lu beaucoup là, en numérologie stratégique, puisque j'étais dessus. Là, j'ai acheté Le Dernier Musso, tu vois, bon, petit roman. J'aime bien. Voilà, tu vois, j'ai acheté 2 bouquins sur Marie-Antoinette.
Ok, super.
Voilà. Et puis, alors, dans le boulot, j'aime bien ce qu'a écrit Julia de Funès, parce qu'elle est vraiment dans la veine de ce que je pense sur l'entreprise. Mm-hmm. Cette inertie de l'entreprise est tuante, je trouve. Mm-hmm. Et c'est bien besoin, effectivement, de remettre du mouvement. Pour remettre du mouvement, quelquefois, on a besoin de secouer le cocotier hein, et pas d'y aller sur... on n'est pas dans un monde de bisounours. Écouter l'autre, c'est quand on a cette capacité, c'est énorme, mais il faut avancer, hein.
Okay. Du coup, ça a été Héroclite, tu passes de Musso à Julia de Funès et du coup, sur Marie-Antoinette. Oui. Marie-Antoinette, c'est quoi? C'est des ouvrages en mode biographie, en mode historique?
Écoute, de ce que j'ai... Tu sais, comme je regarde beaucoup de choses, je vois passer beaucoup de choses et là, c'est un livre qui a été écrit il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est Marie-Antoinette, la légèreté et la constance. Ah. Donc, c'est vraiment, si tu veux, toute cette vision qu'elle avait de... Moi, j'aime beaucoup dans ces bouquins-là, je cherche les dispositions d'esprit, les traits de caractère. Alors, même si Marie-Antoinette, ça remonte, hein, la pauvre, la fine, mais j'aime bien ça. J'aime, toi, Musso, bah, parce que Musso, quoi, bon, j'ai pas plus de... Mais bon, c'est le dernier, je le lis. J'aime bien tout ce qui est un peu anticipation, donc j'ai beaucoup aimé les Denis Marquet, Colère, qui est un roman d'anticipation sur l'état du monde, hein, l'état de la planète, très, 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 moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc après, comme je suis quelqu'un qui travaille sur ces bouquins, de l'ancienne génération, j'écris plein de choses dessus. Ouais. Donc, j'ai besoin de revenir dessus. Voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et puis, je peux donner l'impression que je lis beaucoup, mais j'ai des lectures très en diagonale, comme on dit. Hein.
Oui, ok.
Mais comme j'ai une mémoire visuelle, je sais que j'ai vu des choses et je sais aller les chercher.
Oui, tu te souviens où c'était, en tout cas à quel moment, et du coup, tu peux rattacher ça à un ouvrage. Voilà. C'est chouette, du coup, je mettrai les ouvrages en lien.
C'est important d'aller... Oui, oui, éclectique. Alors, écoute, j'aime bien lire. Mais je suis capable de reprendre un bouquin de philosophie alchimiste. Je peux reprendre un bouquin sur la cabale. Je peux reprendre un bouquin sur le tarot. Je peux prendre un bouquin de cuisine. Noël, la cuisine, je suis en fond.
Tout à fait, mais tu as bien raison. Du coup, c'est ce qui nourrit aussi. Parler de nourriture pour se nourrir.
Mais... Le côté imaginaire et tout, je trouve ça... Oui, c'est vraiment... On a besoin de se nourrir, ce côté un peu magique. Et la cuisine, c'est de la transformation. Tu vois, on peut mettre ce mot au travail, travail entreprise, travail sur soi, travail voilà, philosophique. C'est de la transformation. C'est de l'alchimie, hein. C'est de l'alchimie. Tu mets des ingrédients, tu fais chauffer et bon voilà, un peu de langue de vipère, un peu de... tu dis bon alors voilà, je vous propose donc, oh, c'est parfait. Le podcast va avoir beaucoup de succès.
Bah oui, bien sûr.
Alors la dame, elle met un peu de langue de vipère. Non, mais c'est de la transformation, oui, c'est, tu vois, je pense que les lectures, même si on est aujourd'hui dans un monde très numérique, très la lecture, ça fait travailler, c'est un temps qui est donné au cerveau pour aller créer des images.
Ok, super, super.
C'est toujours que pour moi.
Hein. Oh, non, c'est comme ça que c'est l'espace d'échange de podcast, c'est ta parole à toi et c'est toi qui livres ce que tu ressens, penses et vis. Hein. Donc, merci de se partager. Et il y a une dernière question que je pose à chaque fois quand on termine le podcast, c'est est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé ou un complément d'info qui te semble important avant de nous dire au revoir sur cet enregistrement qui te semble important?
Eh bien, écoute, non, je vois pas à part... un complément d'info qui dirait que voilà, on s'apprête à passer en 2022 et qu'il faut rester complètement ouvert à plein de choses et à se trouver des solutions. On pourrait parler un peu de cette numéro stratégique qui va nous préparer à passer en année universelle 6 et qui aura toutes les vibrations bonnes pour trouver une harmonie, des solutions. Donc, on va souhaiter à tout le monde de se trouver justement cet environnement-là, profiter de ces bonnes vibrations et surtout en profiter en pleine conscience.
Ouais. profiter en pleine conscience
Ouais, ouais, ouais. C'est
l'année
important, tu vois,
2022.
cette conscience, de dire, voilà, de faire tout ce que l'on fait en conscience.
Ouais, super important.
Ouais.
Ok, super. Ça fait le lien aussi. Tu nous as parlé de bouquins de numéros, puisque du coup, tu termines un cursus pour pouvoir justement intervenir sur tout ce qui est numéro stratégie, numérologie, et en lien notamment avec l'entreprise, et qui est un sujet qui tient à cœur, dont on a aussi été amené à parler. C'est chouette. C'est chouette.
Je pense qu'on a des sujets qui sont très intéressants. Et je te remercie, Cécile, parce qu'à travers un podcast qui est vraiment un format complètement nouveau pour moi, hein, je trouve que c'est intéressant ce partage comme ça. Un format court, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on peut quand même passer sur plein, plein de thèmes.
Un sujet différent, puis qui tiennent à cœur aussi. Bon, c'était l'idée, hein. C'est vrai que sur les
Ouais.
podcasts, j'essaye de capter un petit peu les personnalités aussi des personnes que j'interviewe. Et merci d'avoir joué le jeu, du coup, Martine. C'était super
Mais
chouette
avec plaisir, avec
de
plaisir.
t'avoir sur le podcast. Bon, ben super. En tout cas, merci encore. Je te dis à très bientôt. Et puis, je mets bien sûr tous les liens, tout ce dont on a parlé, je vais les mettre en commentaire, hein, sur le podcast, pour que les personnes puissent aussi retrouver tout ça. Et puis, je mettrai aussi peut-être tes coordonnées, enfin ton LinkedIn peut-être aussi, pour que les personnes puissent, si elles ont envie, venir te faire un coucou pour découvrir et échanger plus longuement avec toi sur toutes tes passions et les sujets qui t'animent.
Pas
Merci
de souci.
encore, Martine.
Merci à toi.